se demanda où il était passé. Sous l'oreiller de Dorothy? Jeté n'importe comment au fond de ce lit en bataille? Peut-être fallait-il voir là aussi une pratique générationnelle. Oui, je suis au courant qu'il prend un vol de bonne heure, maman. Et oui, je sais pourquoi nous restons ici, nous. Il faut que j'aille faire pipi, pensa Juan Diego. Il ne faut pas que j'oublie de prendre de l'oppressor dès que je me retrouverai dans la salle de bain. Mais lorsqu'il tenta de filer en douce dans la pénombre, le bras puissant de Dorothy se referma sur sa nuque, lui plaquant le visage contre son sein. « Et notre vol à nous, il est à quelle heure? On ne part pas pour Manille tout de suite, si ?» Émoustillé par la perspective de se retrouver à Manille avec les deux femmes ou par le contact avec le sein de Dorothy, il bandait de nouveau. C'est alors qu'il entendit Dorothy lancer « Tu plaisantes ou quoi ? Depuis quand tu as attendu à Manille ?»« Allons bon, se dit-il. Si mon cœur n'a pas lâché avec la fille, je suis sûrement assez solide pour survivre avec la mère à Manille. »« Mais c'est un gentleman, maman. Ce n'est pas lui qui m'a appelé, tu penses ? Oui, c'est moi qui l'ai appelé. Et ne viens pas me dire que tu n'as pas envisagé de le faire toi-même, » rétorqua-t-elle caustique. En cet instant où il avait le visage enfoui contre un de ses seins et tenait l'autre d'une main maladroite, lui revint en mémoire une phrase que sa sœur disait souvent, voire à tort et à travers. « No es buen momento para un terremoto. » « Ce n'est pas le bon moment pour qu'on prenne un tremblement de terre. »« Hé, moi aussi je t'emmerde !» lança Dorothy en raccrochant. Si ce n'était pas le moment qu'il arrive un tremblement de terre, il n'aurait pas été mieux choisi pour aller faire pipi. « Je fais un rêve » commença-t-il, mais Dorothy se redressa brusquement de sorte qu'il se retrouva allongé sur le dos. « Mes rêves à moi, vaut mieux pas que je te les dise, crois-moi !» Elle s'était roulée en boule, visage contre son ventre à lui, mais elle se détourna, lui offrant de nouveau sa nuque brune. Quand elle se remit à jouer avec sa bite, il se demanda quel nom donner à cette activité. Des postludes, peut-être. « D'après moi, tu peux recommencer, » lui dit-elle. « Bon, peut-être pas tout de suite, mais dans pas longtemps. Regarde-moi ce petit mec. » Il bandait aussi dur que la première fois, et la jeune femme le chevaucha sans hésiter. Il n'y avait rien de métaphorique lorsqu'il déclara, en pensant à son envie de pisser, « Ce n'est pas le moment qu'on se prenne un tremblement de terre. »« Je vais t'en faire voir, moi, un tremblement de terre, » promit Dorothy. Il s'éveilla avec la certitude d'être déjà mort, et descendu en enfer. Car si l'enfer existait, ce dont il doutait toutefois, une musique infâme y résonnait en permanence pour tenter de couvrir les bulletins d'informations en langue étrangère. Or, c'est précisément dans ces conditions qu'il s'éveilla au Regal Airport. Dans son lit, au milieu d'une chambre éclairée à giorno, la radio à fond, la télévision diffusant ses nouvelles à tue-tête. Dorothy avait-elle déclenché cette cacophonie en s'en allant? Était-ce une facétie de sa part, ce réveil programmé? À moins qu'elle ne soit partie fâchée. Impossible de s'en souvenir. Il avait l'impression d'émerger d'un sommeil profond comme jamais, et qui pourtant n'aurait pas duré plus de 5 minutes. En cognant sur le panneau des interrupteurs, il se fit mal au tranchant de la main. Le volume de la radio et celui de la télévision baissèrent suffisamment pour qu'il entende sonner le téléphone et réponde. On lui hurla aux oreilles dans une langue aux sonorités asiatiques. « Excusez-moi, je ne comprends pas, » répondit-il en anglais. Il avait tenté de dire « lo siento »,« désolé » en espagnol, mais son interlocuteur ne le laissait pas poursuivre. « Espèce de gon !» « Je pense que vous voulez dire espèce de con ?» rectifia l'écrivain, mais son correspondant excédé avait déjà raccroché. C'est seulement à ce moment que Juan Diego s'aperçut que les sachets ayant contenu le premier et le second préservatif n'étaient plus sur la table de nuit. Dorothy avait dû les emporter ou les jeter dans la corbeille. Il vit que le second enveloppait toujours son sexe. C'était d'ailleurs la seule preuve qu'il avait assurée une deuxième fois. Il revoyait la jeune femme entreprendre de le chevaucher, mais ensuite, plus rien. Le tremblement de terre promis par elle se perdait dans les nébuleuses du temps. Si elle avait de nouveau franchi le mur du son dans cette langue étrangère qui ressemblait au nahuatl, mais ne pouvait pas en être, l'instant n'était resté ni dans sa mémoire ni dans son rêve. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait dormi sans faire le moindre rêve précisément, pas même un cauchemar. Il se leva et se dirigea vers la salle de bain. Constatant qu'il n'avait pas envie de pisser, il en conclut qu'il s'était déjà soulagé. Pas au lit, espéra-t-il, ni dans le préservatif, et encore moins sur Dorothy. Mais il découvrit aussi que le bouchon de son flacon de l'oppressor était ouvert. En se levant pour pisser, il avait dû en profiter pour avaler un bêta-bloquant, voire deux. Mais quand? Avant ou après le départ de Dorothy? Et puis, en avait-il pris un seul selon la posologie habituelle ou deux pour compenser l'interruption, à vrai dire? Il n'était pas censé en prendre deux. Ce n'était pas recommandé, même lorsqu'on avait sauté une prise. Malgré l'éclairage aveuglant, il voyait poindre dehors une aube grise. Il n'oubliait pas que son vol décollait de bonne heure. Il n'avait pas sorti grand-chose de sa valise pour une seule nuit. La refaire irait vite. Mais il faudrait bien réfléchir en rangeant ses affaires de toilette. Cette fois, il placerait le Lopressor et le Viagra dans son bagage à main. Il jeta la deuxième capote dans les toilettes et tira la chasse d'eau. Mais la première demeurait introuvable, ce qui le laissait perplexe. Et d'ailleurs, quand s'était-il levé pour pisser? D'un moment à l'autre, Myriam allait l'appeler ou frapper à sa porte pour lui dire qu'il était l'heure. Il rabattit le drap de dessus et regarda sous les oreillers dans l'espoir de la retrouver. Rien non plus dans la corbeille, pas même les sachets protecteurs. Ce fut sous la douche qu'il aperçut le préservatif fugueur qui décrivait des cercles au fond de la baignoire. Déroulé, on aurait dit une limace noyée. Elle avait dû se coller à son dos ou à ses fesses ou encore à son mollet. C'était gênant, pourvu que Dorothy n'ait rien vu. S'il s'était dispensé de se doucher, il aurait pu embarquer pour Manille avec ce préservatif usagé collé au corps. Malheureusement, le téléphone sonna quand il était encore sous l'eau. Or, c'était dans leur salle de bain que les pires accidents guettaient les hommes de son âge, a fortiori handicapés. Il ferma donc le robinet et sortit avec les plus grandes précautions. Encore tout dégoulinant d'eau, attentif à ne pas glisser sur le carrelage, il voulut prendre une serviette, mais celle-ci se coinça et il tira plus fort qu'il n'était nécessaire. Le porte-serviette se détacha du mur, emportant avec lui son support de porcelaine qui alla se briser en mille morceaux translucides sur les carreaux mouillés. Juan Diego reçut en pleine figure la barre d'aluminium qui lui ouvrit le front au-dessus de l'arcade sourcilière. Il retourna dans la chambre, une serviette appuyée contre la plaie. « Allô » cria-t-il dans l'appareil. « Bon, vous êtes réveillé, c'est déjà ça, » répondit Myriam. « Ne laissez pas Dorothy se rendormir. »« Elle n'est pas là ?» Sa chambre ne répond pas. Oh, elle doit être sous la douche. Vous êtes prêt? Vous me donnez 10 minutes? Pas plus de 8. Et dans 5, j'arrive. On prendra Dorothy au passage. Ces jeunes femmes, elles sont toujours prêtes les dernières. Je serai prêt. Vous allez bien? Mais oui, tout à fait. Vous n'avez pas votre voix habituelle? Pas ma voix habituelle? Il vit qu'il avait saigné sur les draps. L'eau qui coulait de ses cheveux avait dilué le sang devenu rosâtre, mais il y en avait beaucoup pour une simple coupure. Voulant éponger le lit avec sa serviette, il ne fit qu'aggraver les dégâts. Au niveau de la table de chevet, on aurait dit une scène de crime rituel à connotation sexuelle. Il retourna dans la salle de bain. Les carreaux étaient éclaboussés d'un mélange de sang et d'eau et jonchés de bris de porcelaine. Il se rinça le visage, le front surtout, dans l'espoir que cette vacherie d'entaille cesse de saigner. Comme de juste, sa trousse contenait des provisions de Viagra et de l'oppressor suffisantes pour soutenir un siège, sans oublier le coupe comprimé, mais pas le moindre sparadrap. Pour étancher le flot, il appliqua un tampon de papier toilette sur l'entaille minuscule. Lorsque Myriam frappa à sa porte et qu'il la fit entrer, il était prêt ou presque. Il ne lui restait plus qu'à enfiler sa chaussure orthopédique, faite sur mesure. L'opération était toujours délicate et pouvait durer un certain temps. Myriam le poussa vers le lit. « Venez, je vais vous aider. » Il s'assit pour qu'elle la lui passe. À sa grande surprise, elle savait s'y prendre. Elle lui a